Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et c'est à l'alimentation en prison que nous allons nous intéresser ce midi. Comment mangent les 75 677 personnes incarcérées dans nos prisons françaises? Dans quelles conditions se nourrissent-elles? Et, grande question, est-ce qu'on mange bien en prison? Deux invitées sont avec nous pour commencer. Elles seront rejointes par deux autres un peu plus tard dans l'émission. Pour commencer, Madeleine Kuhlmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en Master 2 à Sciences Po Lille. Dans le Master Boire, Manger, Vivre, où vous avez fait un mémoire l'année dernière sur l'alimentation en prison, c'est dire que vous connaissez bien le sujet. De même que Lucie Inland, bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes journaliste, pas beaucoup plus âgée que Madeleine, auteure en 2023 d'un livre enquête qui s'intitule « Surveiller et nourrir ». Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un clin d'œil à un célèbre ouvrage de Michel Foucault? Je le dis quand même. Un livre qui s'interroge sur l'alimentation en prison, en France et aux États-Unis. Peut-être vous nous direz un mot sur la différence entre les deux, bien que nous nous concentrions sur la France. Pour commencer, comment mange-t-on en prison, tout simplement? On sait peu de choses quand on n'y est pas. On aimerait savoir comment est organisée l'alimentation des prisonniers. Lucie Inland.
On mange comme dans les collectivités publiques, comme les écoles ou les hôpitaux, à savoir qu'une alimentation de base est fournie, parce qu'en France, on ne laisse pas mourir les gens de faim, et c'est très bien comme ça. Par contre, ce qui revient dans les lectures que j'ai eues ou des discussions que j'ai eues avec des personnes en détention ou anciennement en détention, c'est que c'est pas satisfaisant pour différents points. On verra, j'imagine, au fur et à
mesure. Bien évidemment. Et quand vous dites que c'est fourni par l'administration pénitentiaire,
oui.
C'est l'administration qui distribue les repas?
Oui.
Combien par jour?
Oui, y a le déjeuner et le dîner, qui n'est pas à l'heure du dîner, qui est un peu avant, plus ce qu'il faut pour le petit déjeuner.
Et à quelle heure quand vous dites que c'est un peu plus tôt qu'un dîner? C'est 17h30
17h30, ouais, et 11h30 oui. Pour le déjeuner.
Oui.
Et en fait, le problème qui se pose, c'est que pour le dîner, c'est aussi tôt parce que c'est les équipes de jour qui doivent le distribuer, parce que les équipes de nuit sont beaucoup moins nombreuses et ne pourraient pas du coup assurer ce service-là. Et donc, c'est pour ça que c'est distribué aussi tôt. Et les horaires, c'est vraiment un enjeu quand on parle d'alimentation en prison. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les plaintes des personnes détenues, le fait que elles n'ont pas forcément faim. Et donc, si elles n'ont pas forcément faim, elles ne vont pas forcément manger leur repas tout de suite. Et ensuite, elles n'ont pas forcément de quoi réchauffer, parce qu'il faut avoir les moyens pour avoir de quoi réchauffer en prison. Et donc, elles vont pas manger ou alors le laisser pour plus tard, le manger froid. Et donc, elles vont percevoir leur alimentation comme mauvaise.
Oui, mais parce que vous dites elles n'ont pas forcément de quoi le réchauffer. Ça veut dire que c'est servi dans les cellules?
Oui, il n'y a pas de réfectoire comme ce qu'on voit.
Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas d'espace commun.
Ce qu'on appelle la cantine, c'est l'épicerie interne de la prison où on peut cantiner, ça se dit comme ça du coup, des denrées alimentaires, mais pas que. Mais l'image qu'on a le plus souvent en France, ça vient des fictions américaines où les gens mangent à table dans des réfectoires. Et en France, ça n'existe pas. Dans les maisons d'arrêt, tout le monde mange en cellule. Ça, c'est la très grande majorité des personnes détenues sont en maison d'arrêt parce que c'est des peines courtes, voire de la détention préventive, c'est-à-dire des gens qui sont incarcérés sans avoir été jugés. Les centres de détention et les centrales, il y a des espaces partagés parce que c'est des gens qui restent plus longtemps en détention. Donc c'est normal de penser aussi à un autre niveau de confort. Quand je dis longtemps, c'est très longtemps même des fois. Et il n'y a pas de surpopulation. Ça concerne que les maisons d'arrêt où là, pour le coup, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Et ce qui me fait penser à l'autre facteur, c'est la surpopulation. Et donc, surpopulation et plaisir gustatif, c'est pas facile quand on mange dans les odeurs de tout le monde, qu'on n'a pas la place. Et comme ce que disait Madeleine, tout le monde ne peut pas réchauffer ou stocker sa nourriture parce que ce n'est pas gratuit. Il faut louer ou acheter les réchauds ou les réfrigérateurs.
Parce que quand on va dans la cantine, qui est donc l'épicerie ou le supermarché carcéral, Madeleine Kuhlmann, on trouve quoi et à quel prix?
Alors, on trouve vraiment des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des produits de première nécessité. Donc, il y a vraiment de tout. Moi, je me souviens que donc j'ai été dans plusieurs centres pénitentiaires et je me souviens que à chaque fois, la denrée la plus achetée, c'était l'eau. Ce qui peut paraître étonnant parce que en fait, les personnes détenues ont de l'eau, mais du coup, je pense que ça illustre à quel point les personnes détenues aussi n'ont pas confiance dans tout ce qui provient en fait de la prison, de l'institution qui les enferme, et ça illustre le fait que même si ce que sert l'administration pénitentiaire est nutritivement bon parce que ça a été pensé par des diététiciens et diététiciennes, les personnes détenues le perçoivent pas comme tel. Et ça illustre bien le fait que l'alimentation, c'est pas seulement nutritif, il y a aussi une fonction sociale et une charge symbolique qui est énorme. Et en fait, c'est sur ça qu'il faut travailler.
Est-ce qu'elles ont le droit de recevoir de la nourriture de l'extérieur, des familles par exemple ?
Les colis de fin d'année. Et c'est tout. Sinon, il n'y a pas le droit. Après, officieusement, plein de gens font passer de la nourriture lors des parloirs, mais c'est complètement interdit.
Et je me souviens, dans votre livre aussi, vous évoquiez le fait que certains détenus se faisaient projeter des colis à travers les murs de la prison.
Ou par drone, des livraisons de drones. Alors, on en parle souvent à la rubrique insolite, et c'est souvent aussi pour parler de drogue. Et souvent, les deux sont mis au même plan. Après, je pense que les colis font un peu tout. Et donc, ces colis sont livrés, c'est complètement interdit, il y a des poursuites liées à ça. Mais les gens se font livrer de la viande ou des choses qui n'existent pas.
Alors aussi, peut-être parce que ils en manquent.
Ah oui.
Parce que selon une étude menée notamment auprès des détenus du centre pénitentiaire de Nantes par une ONG médicale de solidarité internationale en 2021, la majorité des personnes incarcérées estime que les portions des repas servis par l'administration pénitentiaire ne sont pas suffisantes, Madame Kuhlmann.
Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes détenues ont le choix entre deux repas, donc soit un repas standard, la plupart du temps avec de la viande, soit un repas végétarien.
Type escalope de veau viennoise, purée pomme de terre, ou purée de concombre, mélimélo de légumes.
Voilà, exactement. Le problème, c'est que, j'ai assisté à une réunion entre l'administration pénitentiaire et un gestionnaire privé, où ils discutaient des menus qui allaient être servis aux personnes détenues, et en fait, on se rendait compte que parfois, c'était très tiré par les cheveux, et que ça ne correspondait pas forcément, en fait, aussi à la façon dont s'alimentent les détenus dans leur quotidien, et donc se voir imposer déjà un repas, même s'il y a deux choix qui sont possibles. Donc se voir imposer un repas au quotidien, qui plus est, qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de manger, et bien en fait c'est compliqué d'avoir faim et d'avoir envie de le manger, et donc de trouver qu'on est servi en quantité suffisante. Et aussi, j'avais un peu travaillé sur ça dans mémoire, sur la charge symbolique des aliments et ce qu'ils représentent. Et par exemple, on va avoir tendance à se dire que, je sais pas, du quinoa par exemple, ça remplit beaucoup moins qu'une pièce de viande. Donc bon, ça dépend des quantités, mais en fait aussi tout dépend de la perception qu'on a de son alimentation.
De toute façon, quand on lit votre livre, Lucine Lind, on se rend compte que c'est un peu la double peine, la nourriture en prison. C'est-à-dire qu'on a encore la vision d'un repas comme un repas de pénitence, et un peu, allez hop, au pain sec et à l'eau. Hein. Vous êtes privé de liberté, vous devez aussi être privé de bien manger, en quelque sorte. Il y a quand même cette idée persistante.
Bah oui, il y a les enjeux financiers, et comme ce qu'a expliqué Madeleine, il y a les enjeux qui sont en dehors de l'équilibre diététique, de l'apport nutritionnel et tout. Il y a tout l'aspect plaisir, commensalité qui n'y est pas. Donc, et c'est quelque chose qui manque aussi quand les gens font des commentaires. Et ça, j'y reviens, mais ça, tout le monde le connaît. De quoi ils se plaignent. Ils sont logés, nourris, ils vivent mieux que plein de gens. Surtout là avec l'inflation, tout le monde en souffre. C'est des commentaires qui reviennent souvent. Ils mangent mieux que nous. Non, ils ne mangent pas mieux que nous. Et le cadre de vie n'est pas le même. Et ça joue énormément. Manger, ce n'est pas juste absorber des aliments.
Et il y a une charge symbolique dont parlait Madeleine Kuhlmann, qui est effectivement très forte et dont vous parlez aussi dans votre ouvrage.
Oui. On mange pas la même chose que chez soi. On mange pas aux mêmes horaires que chez soi. Pour revenir sur les gens qui se font apporter de la nourriture lors des parloirs, c'est pas des trucs pour manger des trucs hyper luxueux ni des choses comme ça. C'est généralement manger des choses qui ont le goût de la maison. Et les peines de prison, généralement, c'est de la peine courte, mais Déjà, personnellement, moi, juste couper 6 mois la nourriture de mon mari, j'aurais du mal. Mais pour des gens qui y restent plusieurs années, c'est pesant, quoi.
Vous disiez que les prisonniers et les prisonnières n'avaient pas le droit de recevoir de la nourriture de l'extérieur, sauf pour les colis de fin d'année. Est-ce qu'ils ont le droit de cuisiner dans leur cellule, Madeleine Kuhlmann?
Oui, ils ont le droit. Pour le faire, il faut d'abord qu'ils aient la possibilité d'avoir de quoi le faire.
Donc, un frigo, des plaques de cuisson, des
ustensiles. Un frigo pour conserver ce qu'ils ont cuisiné, de quoi réchauffer. Donc parfois, ils se fabriquent un réchaud un peu...
Parce que ça, c'est pas pardon de vous interrompre, c'est pas l'administration pénitentiaire qui les leur
fournit. Elle peut fournir des plaques, mais le réchaud, ils appellent ça un peu de la cuisine de la débrouille. Et donc, c'est une façon de se fabriquer quelque chose pour réchauffer des aliments, mais qui n'est pas fourni par l'administration pénitentiaire, mais qui peut être, dans une certaine mesure, toléré, puisque ça existe. Et ensuite, donc, s'ils cantinent des produits, ils peuvent souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent les repas que l'administration pénitentiaire leur donne, plus que de cuisiner un repas de A à Z, parce que déjà ça coûte cher et qu'ensuite ils n'ont pas forcément, comme vous le disiez, tous les ustensiles pour le faire.
Alors, grâce à vous, Madeleine Kuhlmann, nous avons pu contacter un ancien détenu qui est aujourd'hui animateur dans une association de défense des usagers de crédit et qui a écrit à la sortie de la prison de la Santé où il a passé 2 ans, entre 1997 et 1999, un livre qui est plein d'humour, qui s'intitule « Cuisine entre quatre murs, excursion carcéro-gastronomique », parce qu'il vaut mieux en rire. Bonjour Philippe Leclerc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous mangez comment? Est-ce que ce que vous avez entendu depuis le début de cette émission correspond? Alors, ça remonte quand même, il y a presque 25 ans maintenant, mais est-ce que ça correspond à ce que vous avez connu?
Peu ou prou. Je dirais qu'en fait, pour résumer, au niveau de la qualité de ce qui est servi en tôle, c'est de la même qualité que ce qui est servi dans les hôpitaux, que ce qui est servi dans les EHPAD, que ce qui est servi dans... C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de volonté de mal faire, mais il n'y a aucune volonté de bien faire non plus.
Donc en gros, c'était pas très bon.
C'est moi qu'on puisse dire, oui.
Et c'est malgré tout un moment... Vous vous souvenez que c'était un moment important, le repas, dans la journée? Est-ce que ça permettait de s'évader, alors non pas forcément avec la gamelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, le repas servi en cellule, oui. Mais avec le fait qu'en plus vous étiez restaurateur, vous, avant d'être incarcéré, donc vous saviez cuisiner. Est-ce que vous cuisiniez dans votre cellule?
Ah oui, beaucoup.
Vous faisiez quoi? Racontez-nous.
Je faisais de tout. C'est une cuisine d'ersatz, puisqu'on n'a pas tout ce qu'il faut sous la main, on n'a pas le matériel, on n'a pas les matières premières, mais... j'essayais de refaire des plats, des sauces, ça allait de l'entrée au dessert. Mais le plus important, c'est en fait que ce qui sort de la gamelle qu'on cuisine n'est pas de la prison. Ça a une autre dimension. Et le plus important dans le repas, c'est pas tellement la gamelle en elle-même, sauf pour quelques morpales, mais bon. Mais c'est le fait, je crois, qu'on est... Au moment où on mange, les autres mangent aussi. Les autres dehors. La famille, les amis, les gens dehors. Et le fait de pouvoir cuisiner en cellule, c'est aussi tisser un lien avec l'extérieur.
D'où l'importance des heures dont on parlait au début de cette émission. Le fait que ce soit à 17h30, c'est quand même un peu tôt, parce que là, tout le monde ne mange pas à 17h30 quand le dîner, entre guillemets, vous est servi. Vous parlez de ce système de réaliser des cuisines, des recettes de cuisine avec les moyens du bord, Philippe Leclerc. C'est vrai qu'on entend beaucoup quand on travaille sur l'alimentation en prison, cette espèce d'ingéniosité, de système D qui se passe en prison. On voit bien dans les cellules, même parfois on les voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des techniques de cuisson à défaut de four. Alors c'est deux poêles empilées l'une sur l'autre sont prises en sandwich entre les deux feux des deux plaques chauffantes. Ça crée une enceinte chauffante hermétique et ben voilà, et on peut faire des gaufres par exemple avec ça. Vous avez fait ça par exemple, vous?
Ah oui, alors j'avais pas de plaque chauffante parce que j'étais à la Santé, alors à la Santé il n'était pas question de plaque chauffante, donc on avait une brave chauffe à huile faite maison, évidemment, mais j'ai fait des gâteaux avec ça, par exemple. Et en fait, c'est une cuisine d'ersatz, vraiment, c'est-à-dire que si vous vous plongez dans un almanach Vermont un peu ancien, datant de la guerre de 14, par exemple, où ils vont donner des recettes qu'on peut faire avec les moyens du bord, parce qu'à l'époque non plus, ils n'avaient pas tout, même à l'extérieur, vous apercevrez que ça participe du même esprit.
Ouais, et dans votre livre, il y a 50 recettes hein, de cuisine comme ça, ouais. faites en cellule, ouais. Avec les moyens du bord, ou de cuisine d'Erdas dont vous parlez. C'est un livre qu'on trouve dans beaucoup, voire toutes les bibliothèques des prisons. J'ai lu ça, en tout cas. Donc, votre livre a fait date. Merci, Philippe Leclerc, d'avoir témoigné de ce que vous aviez traversé et vécu quand vous étiez vous-même en prison. Lucine Linde, on parlait d'un livre, là, mais aujourd'hui, il y a surtout des vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux, je l'évoquais. On y voit, on y a vu sur TikTok, sur Instagram, on y voit parfois un condamné qui utilise le moteur d'un ventilateur surmonté d'une fourchette pour battre des œufs et monter les blancs en neige. Bon, les téléphones, ils sont pas permis, mais c'est pareil, c'est toléré, manifestement.
Ah bah oui, c'est vraiment interdit. C'est pour le coup, il y a pas vraiment de tolérance. Enfin, c'est pas ce qu'on m'a raconté. Dans tout le cas, dans le règlement, c'est interdit. Mais il y en a plein de détenus ont un téléphone parce que ça permet tout simplement de rester en contact avec son entourage de manière beaucoup plus facile.
Oui, et puis là, comme ça circule, ce qu'on voit, c'est aussi un caractère pédagogique les uns avec les autres, Madeleine Kuhlmann.
Oui, oui, ça permet que les uns et les autres s'inspirent des recettes qu'ils ont cuisinées, qu'ils puissent en parler aussi. Et il y a aussi quelque chose d'important à dire autour du moment où sont... Donc là, on sort de la cuisine, mais autour du moment où sont distribués les repas et ça rejoint la cuisine, c'est que c'est aussi des moments d'échange informel. Donc ça peut être entre les détenus, mais ça peut aussi être entre les détenus et les surveillants. Et c'est des moments où tout le monde est quand même... beaucoup plus apaisé, on se concentre autour de quelque chose de commun qui est le repas et ça peut donner lieu à des échanges autour de toute autre chose mais qui sortent un peu du cadre de cette logique dominant-dominée.
Restez avec nous toutes les deux, on continue cette émission consacrée à l'alimentation en prison. On va parler des moyens de pouvoir rendre ce moment ou ces moments de repas plus attractifs et peut-être l'assiette même plus appétissante.
Deux cappuccinos, deux magrets, à suivre un curry, deux lapins et un risotto.
Je savais rien faire, du coup je sais faire la pâtisserie. Je suis calé aux entrées, je suis calé au chaud. La chef des fois me laisse diriger la cuisine. Bah, avant c'était cellule promenade, rien d'autre quoi.
J'avais rien de la cuisine avant, j'avais faire que des œufs, des pâtes, des frites, des trucs basiques. Maintenant j'ai appris des goûts, je sais qu'il y a des trucs que je goûte, je sais ça, c'est quoi comme aliment.
T'as l'air impressionné, Leïla, toute ta tête là.
Ouais, franchement c'est trop beau ce que tu fais.
T'es fier de toi quand tu sors un truc comme ça ou pas?
La vérité, oui, grave. On dirait, c'est gastronomique, donc c'est étonnant de se dire que nous, on peut faire ça.
Allez sur Internet, cherchez les beaux mets, un restaurant unique de Marseille qui ouvre du lundi au vendredi le midi, 42 couverts, alcool proscrit, entrée plat ou plat dessert 28 euros, menu entrée plat dessert 35 euros, réservation 4 jours avant sur le site. À votre arrivée, vous devrez... passez un portique de sécurité, laissez dans un casier téléphone portable, clé, espèce. Vous êtes à la prison des Baumettes à Marseille, où la cuisine est faite par les détenus. Sandrine Saulier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Marseille. Vous êtes chef, vous êtes la chef de ce restaurant des Baumettes à Marseille, après avoir notamment travaillé avec le chef Gérald Paceda dans son 3 étoiles Michelin du Petit Nice à Marseille et avec Michel Portos, ex 2 étoiles impliqué dans l'insertion sociale, notamment dans l'univers carcéral. Je crois que c'est même lui qui vous a formé vous-même à la cuisine pour ensuite que vous puissiez apprendre aux détenus à cuisiner. Il n'y en a qu'un comme ça de restaurant au sein d'une prison, comme les Baumettes, Sandrine Saulier?
Mais, oui, il y a un restaurant en France, pour l'instant. Après, il y a un restaurant en Angleterre et un restaurant en Italie.
Ce restaurant, Les Baumettes, il a ouvert en novembre 2022. Et c'est une association qui a été à l'origine de ce projet, je crois.
C'est l'association Festin, du coup, pour laquelle je travaille. Et on emploie 14 détenus en deux brigades. 3 en salle et 4 en cuisine. Ils travaillent 2 jours par semaine, un groupe et l'autre groupe 3 jours.
Et vous, quand vous dites que vous apprenez la cuisine aux détenus, ça veut dire quoi? Vous y prenez comment?
Nous, on leur apprend toutes les bases de la cuisine d'un CAP pour qu'ils puissent envoyer une cuisine bistronomique. Donc tout ce qui est les termes culinaires, les taillages, on leur apprend à dresser une assiette correctement et à faire passer un message aux gens qui viennent manger dans le restaurant. Et ils sont fiers de ce qu'ils peuvent apporter dans l'assiette et aussi bien faire que les serveurs apporter aux clients.
Ce sont des détenus souvent en fin de peine ou qui font des courtes peines, des détenus qui sont rémunérés?
Oui, ils sont rémunérés 45% et c'est des courtes peines ou des fins de peine, c'est minimum la SAS, maximum 2 ans.
Et puis vous invitez chaque saison, je crois, un ou une chef à préparer un plat signature pour la carte. Alors je suis allée voir sur la carte actuelle, en tous les cas celle qui est présentée sur le site des Baumets, Sandrine Saulier, et j'ai vu que le plat signature du moment, c'est celui de Léo Troisgros, qui est un plat sans gluten, rôti de porc mariné au yaourt, purée de pommes de terre, huile de menthe. On se moque pas des clients, hein?
Oui, voilà. Du coup, chaque carte que l'on propose au restaurant fait venir un chef ou étoilé, impliqué en tout cas dans la réinsertion sociale. Et là, c'est Léo Troisgros qui a bien voulu venir et s'impliquer avec nous sur cette carte.
Et puis vous dispensez, en tous les cas, des chefs viennent dispenser des masterclass auprès des personnes détenues. Est-ce que ça veut dire, Sandrine Saulier, que vous savez si ensuite les détenus, quand ils sortent de la prison des Baumettes, ils continuent à cuisiner?
Oui, il y en a qui continuent une fois sortis de prison. On leur trouve du travail dans un restaurant. Et il y en a 3 ou 4 qui sont encore en train de travailler. Donc un est au République et l'autre est allé donner à Marseille.
Ravioles de sanglier, nantua de crustacés, risotto de céleri et patates douces, filet d'aigrefin fumé au citron, blettes farcies à la crème de noix, virgule de crémeux aux agrumes, beignets avocat et fruits de saison, charlotte à la frangipane. Voilà ce qu'on peut trouver en ce moment à la carte d'hiver des Baumets. Merci Sandrine Saulier d'avoir témoigné de ce que vous faites au sein de ce restaurant qui lui-même est dans l'enceinte des Baumettes à Marseille. Merci.
Merci beaucoup à vous de m'avoir appelé.
Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut faire, Lucine Lind, Madeleine Kuhlmann, à des détenus, de travailler comme font les détenus là dans le restaurant des Baumets?
Madeleine, déjà, travailler autour de l'alimentation, c'est travailler sur un sujet qui parle à toutes et tous parce que c'est quelque chose d'universel et qui est souvent associé à une belle image à l'extérieur, à quelque chose de convivial ou à quelque chose qui fait plaisir. Et donc c'est souvent, en tout cas en détention, on peut travailler en cuisine donc pour préparer les repas. Et c'est souvent un endroit où les personnes détenues veulent travailler parce qu'elles s'y plaisent. Bah, bien sûr parce que ça les fait sortir de leur cellule, parce que ça leur permet d'avoir des revenus, mais aussi et surtout parce que c'est une matière avec laquelle ils sont la plupart du temps assez à l'aise et contents d'être en contact.
Ce qu'on voit, ce qui est clair en tout cas, c'est que cuisiner, c'est pas seulement faire cuire et transformer des produits, c'est justement, et ça revient à ce que vous disiez au début de l'émission et aussi à ce que nous a dit Philippe Leclerc quand il a témoigné tout à l'heure, c'est s'échapper un moment de cette condition, et c'est même éventuellement partager. Là, ce que font les cuisiniers détenus des Baumets, dont parlait Sandrine Saulier à l'instant, c'est justement qu'ils partagent un savoir-faire ensemble. On les a entendus dans le son qu'on a entendu aussi tout à l'heure. On les entend discuter entre eux, voilà, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils savent, et ils échangent, ils partagent, Lucine.
Oui, et puis la cuisine en cellule, c'est pareil, il y a des échanges de bons procédés, aussi d'ustensiles. J'avais discuté avec un ancien détenu qui m'a dit que lui, quand il est parti, il avait donné les affaires qui lui restaient, dont ses ustensiles, à ses camarades qui, eux, ne sortaient pas du tout de suite de détention. Et il y a un autre facteur dont je parle dans le livre, c'est le facteur temps. En prison, on a beaucoup, beaucoup de temps libre. Tout le monde n'a pas de travail en plus, donc cuisiner, surtout avec une cuisine d'appoint, ça prend beaucoup plus de temps que cuisiner chez soi. Et ça permet d'occuper ses journées avec en plus quelque chose de satisfaisant au bout.
Sur le site de Vice, on trouve un témoignage anonyme d'un détenu qui dit « La nourriture, c'est hyper important, surtout quand on est enfermé. D'ailleurs, comme moi, beaucoup de détenus se nourrissent exclusivement de ce qu'ils cuisinent. Une demi-journée passée à cuisiner, c'est une demi-journée où tu penses à autre chose. » Et il ajoute « Outre le fait que ça m'occupe pas mal, cuisiner me permet aussi de troquer mon savoir contre d'autres services et de renforcer les liens avec les détenus. Il y a beaucoup de solidarité entre nous. Partager son repas reste quelque chose de fort. On apprend à se faire confiance. » On voit bien que c'est vraiment, ça dépasse largement le cas du repas qu'on a dans la gamelle, hein, s'il faut reprendre cette image qui est quand même un peu moyenâgeuse, il faut bien le dire. Il y a d'autres exemples vertueux, Lucie. Par exemple, il y a des fermes Emmaüs, vous avez pu en visiter une à Nantes, il y en a une autre à Beaudonne, dans les Landes, qui est un centre pour les femmes, et vous avez visité celle de Nantes. C'est quoi ferme Emmaüs ?
C'est Saint-Gilda-des-Bois, vers Nantes, en Loire-Atlantique. C'est une ferme d'insertion pour détenus en fin de peine, donc c'est des hommes uniquement. Emmaüs Beaudonne, c'est que des femmes pour le coup, et c'est la seule structure que pour les femmes. En France, moi j'y suis allée pour un reportage pour le Média Street Press, qui est un des médias avec qui je collabore, pour vraiment parler de l'initiative générale. Donc eux, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'insertion, on leur fait faire du maraîchage. Beaucoup, avec quand même l'idée d'être autonome d'un point de vue alimentaire. Donc, ils sont formés sur le maraîchage, ils sont rémunérés pour ça, ce qui permet aussi de préparer leur sortie dans de bonnes conditions. Et il n'y a pas que, il y a aussi des gens qui travaillent et à la ferme et des bénévoles, mais il y a aussi le fait de préparer les repas et de manger ensemble. Moi, j'y suis allée deux fois et on a mangé ensemble le midi, une grande tablée avec tout le monde. Et effectivement, j'en ai profité pour poser des questions et eux, ça a changé vachement de la nourriture en détention
du quotidien.
Ils n'en ont pas du tout gardé des bons souvenirs.
Madeleine Kuhlmann, il y a d'autres initiatives, peut-être même à l'instar du livre de Philippe Leclerc, des livres qui sont initiés par des détenus.
Oui, exactement. Il y a notamment une initiative de Médecins du Monde dans le cadre de leur projet Promouvoir la santé en milieu carcéral. Donc ils ont fait ça au centre pénitentiaire de Nantes. Et en fait, à l'initiative des détenus, il y a un livre de recettes qui a été créé. Donc des recettes qui sont multiculturelles, ce qui change des repas un peu franco-français distribués par l'administration pénitentiaire, qui sont aussi illustrés parce qu'il y a beaucoup d'illettrisme en détention et qui sont à réaliser en quelques étapes et avec des produits qui coûtent très peu cher à cantiner et qui permettent surtout d'améliorer sa gamelle. Et il y a aussi des conseils nutritifs parce que en fait l'alimentation c'est aussi sa santé et c'est un champ qui est très peu investi en prison et qui pourtant est essentiel parce que il y a beaucoup de détenus qui sont en mauvaise santé et donc ça contribue à l'insertion en prison et à la réinsertion ensuite.
Voilà, comment faire ça tambouille même avec les moyens du bord. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors les Baumets, c'est à la prison des Baumettes à Marseille. Je rappelle que c'est un restaurant ouvert le midi au public. Surveiller et nourrir, votre livre Lucie Inlinde est paru chez Nourriturfu. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec Séam Boutata à la documentation et à la coordination, avec Colin Gruel à la réalisation et Dalia aujourd'hui à la prise de son, nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.